Et c'est une mauvaise façon de voir ces choses-là, en fait. Et c'est, je pense, beaucoup de chrétiens, pas forcément dans cette église, mais des chrétiens en général, qui ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire de chercher. Donc, voici ce que j'ai reçu, je vous le donne tel quel, mais après on va détailler différentes choses. Il y a malheureusement beaucoup de chrétiens qui, au lieu de chercher Dieu, donc chercher à le connaître personnellement, passent leur temps à chercher à se justifier, à justifier leurs actes devant Dieu. Ils cherchent à justifier leur position, leur désir. Donc ils rentrent dans une relation avec Dieu, mais après ils essayent de trouver des versets pour combler, pour quelque part se justifier soi-même, au lieu de s'adapter et de changer pour vraiment connaître Dieu. Par conséquent, ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne savent pas comment encourager les autres sans se sentir personnellement dévalorisés. Ils pensent que lorsqu'ils encouragent les autres, qu'eux-mêmes, ça les rabaisse. Et c'est dans la société dans laquelle on vit, n'est-ce pas? Surtout ici dans le Sud, c'est beaucoup j'abaisse l'autre pour essayer de m'augmenter moi-même. Leur relation avec Dieu n'est passée qu'à se justifier sans se découvrir. Par conséquent, ils croient le mensonge qu'ils n'ont rien à transmettre. Et ils ont peur de transmettre parce qu'ils pensent que s'ils transmettent ce qu'ils ont, ils perdent de la valeur. Donc on va changer cette mentalité ou cette fausse impression parce que c'est un mensonge qui vient du diable. Vous avez de la valeur. Dieu a mis des choses en vous et on a besoin les uns des autres, on a besoin de s'encourager. Je disais le verset tout à l'heure, il dit « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadée, donc en Romains 15, 14, que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter, de vous encourager les uns les autres. » On est capable, mais est-ce qu'on le fait? N'est-ce pas? Mais cette pensée, cette crainte profonde sort de deux questions. Qui suis-je et est-ce que j'ai de la valeur? Et je pense que c'est une question que l'on se pose déjà tout petit, mais qui est-ce que je suis? Quelle est mon identité? Et après, est-ce que j'ai de la valeur? Et dépendant de notre entourage, de la culture dans laquelle on a été élevé, de la famille dans laquelle on a été élevé, peut-être qu'on a été encouragé, peut-être qu'il nous a été donné une identité ou pas. Mais après, si on a reçu une identité, peut-être qu'elle est bonne ou pas, n'est-ce pas? Certains ont été dévalorisés tout au long de leur vie, que ce soit par leur famille, ou leur professeur, ou leur entourage. Mais ce manque d'identité peut être restauré qu'en Christ. Et lorsque nous cherchons Dieu, nous découvrirons notre identité, qui nous sommes en lui. Donc, mes amis, les premiers pas vers la vie abondante, c'est la découverte de qui nous sommes en lui. C'est à partir de ce moment-là, on pourra pleinement rentrer dans cette vie abondante. Tant qu'on ne sait pas qui on est, on va continuer à errer dans ce désert. Au lieu de passer le cap et rentrer dans cette vie abondante qui nous est disponible à tous. Donc notre Créateur, comme il a été dit quelques dimanches passés en Proverbe 16, 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Vous avez de la valeur. Il vous a créé pour une raison précise, pour un but précis. Mais regardons ce qu'il a fait lorsqu'il a envoyé Jésus. Jésus nous a dit clairement pourquoi il est venu en Jean 10, 10. Et vous pouvez y tourner dans vos Bibles. En Jean 10, 10. Qui dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger, verset 11. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Donc lorsque Jésus est venu, il est venu pour nous donner la vie, et la vie même dans l'abondance. Pas juste la vie. Et certains se sont contentés de rester là, à recevoir la vie, mais pas forcément de rentrer dans le côté de l'abondance qu'il nous a promis aussi. Et Jésus est venu pour restaurer trois choses. Donc premièrement, il est venu pour restaurer notre vision du Père. Nous présenter Dieu d'une autre manière. Parce que les gens de l'Ancien Testament ne connaissaient pas Dieu en tant que leur Père céleste. C'était un Dieu distant, un Dieu lointain, un Dieu qui, eux, pensaient, les attendaient au quart de tour, dès qu'ils faisaient une erreur pour les punir, mais ils ne le connaissaient pas en tant que Père. Jésus a dit, je suis venu pour vous montrer le Père, n'est-ce pas? Tout au long de son ministère, de sa vie terrestre, parce qu'après on se dit, il aurait pu venir, mourir sur la croix et repartir. Mais il a quand même vécu ici 33 ans, n'est-ce pas? Et pendant tout son temps de ministère, il est venu faire les œuvres du Père. Et nous voyons cela en Jean 14, 8 à 10. Donc en Jean 14, 8 à 10. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Donc au travers de tout le ministère de Jésus ici terrestre, nous voyons le cœur, la nature de Dieu. Parce que les œuvres donc, que Jésus a faites, c'était Dieu qui les faisait au travers de lui. Le fait de guérir les malades, le fait de délivrer les gens, le fait de les libérer de leur oppression. C'est ça le cœur de Dieu en tant que Père. Et malheureusement, au travers de notre vécu terrestre, nous avons cette habitude de transposer les choses. Si on a vécu quelque chose dans une relation, la prochaine relation qu'on va vivre, on va se dire « Ah, mais de toute façon, ça va se passer comme à la dernière. » N'est-ce pas ? On a des craintes parce qu'on a été blessé. Et donc, beaucoup de personnes transposent ce qu'ils ont vécu avec leur père terrestre sur leur relation père-enfant avec Dieu. Donc, si leur père n'était pas présent, ou s'il était trop occupé pour eux, ou il les a abandonnés, ou il n'était pas attentif, ils vont penser que Dieu va agir de la même manière envers eux. Et donc, il transpose dans la mauvaise direction quelque part. Nous sommes censés venir chercher Dieu, le découvrir pour qui il est vraiment, pour qu'ensuite on puisse prendre sa nature de père et instaurer cela dans nos familles. N'est-ce pas ? Pour que ceux qui ne sont pas encore pères ou ceux qui le sont présentement, je ne serai jamais père. Je serai mère un jour, mais je ne serai jamais père. Mais on peut apprendre de sa nature, de son cœur et le transmettre à nos enfants. Le fait d'être fidèle, parce que Dieu lui a promis que jamais il nous abandonnerait, jamais il nous délaisserait. Donc nous pouvons savoir, peut-être mon père n'a pas été le meilleur des exemples. Premièrement, je le pardonne. Je dois le pardonner pour que je puisse aller de l'avant, pour que je puisse être libérée moi-même, et pour maintenant je puisse recevoir l'amour du Père céleste, cet amour véritable. Il désire tellement que nous puissions le découvrir, en tant que bon Père, le vrai Père qu'il est. Donc, comme on a dit, beaucoup de chrétiens essaient de se justifier aux yeux de leur Père Céleste. Ils essaient de venir et dire, « Ok, ben, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc maintenant, tu peux me bénir parce que j'ai fait cela. » N'est-ce pas ? Les enfants essaient de faire cela aussi. « Mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, donc tu peux me bénir. » Une fois, j'ai eu la bénédiction d'avoir un bon Père. Un Père donc, justement, qui a, lui, recherché la face de Dieu, qui a découvert le Père Céleste en tant que son Père, et qui a mis cela en application dans sa vie. Donc je ne dis pas qu'il est parfait. Pour la plupart, vous le connaissez. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Pasteur John, que vous avez vu sur la vidéo. Mais il a fait de son mieux pour pouvoir faire les choses comme il voyait dans la Bible et les mettre en pratique. Mais même en tant qu'enfant, ou là c'était une situation où j'étais adulte, je l'avais au téléphone, je pense. Je l'avais au téléphone, et je dis « Ah, papa !» Parce que des fois, je l'appelle papa. Pas en public. Pour pas qu'il y ait tout le monde qui commence à l'appeler Papa John, mais des fois, en privé, je l'appelle Papa. Certains sont surpris que je l'appelle Pasteur John devant les autres, mais c'est pour que... Voilà. Parce que lorsque je suis ici, c'est mon pasteur, c'est mon responsable. On a beaucoup de chapeaux différents qu'on échange. Donc, c'est aussi mon patron, parce qu'il est le président de la maison d'édition que je dirige. Donc, on a beaucoup de différentes relations. Mais premièrement, c'est mon papa. Et je dis, ah papa, tu vas être fier de moi parce que j'ai fait ça, ça et ça. Et il s'est arrêté, il dit, mais Rebecca, mais je suis toujours fier de toi. Tu es ma fille. Et j'étais là. Alors qu'il a. C'est un père qui a toujours dit qu'il était fier de moi, qu'il m'aimait, mais c'était un. Parce qu'au travers de ces mots, j'ai vraiment ressenti que c'est Dieu qui parlait. Et qui disait, mais je suis toujours fier de toi. Je suis toujours fier de toi. Peu importe que tu n'aies fait ou que tu n'aies pas fait, simplement parce que tu es mon enfant. Et si on peut avoir cette réalisation et ce changement dans notre relation avec Dieu. Et que ça ne devienne pas le Seigneur tout loin là-bas qui essaye de nous choper, ou un monsieur assez âgé, assez aigre qui s'est levé du mauvais côté du lit. Il ne sommeille ni ne dort, hein, donc il peut toujours être que de bon poil. Mais si on le voit dans cette perspective-là, on va avoir cette crainte lorsqu'on vient devant lui. Et donc on ne comprendra pas, on aura cette crainte, mais est-ce que la vie abondante c'est vraiment pour moi, ou est-ce que c'est que pour les autres ? Parce qu'eux, ils ont fait ça, et eux, ils ont fait ça, et moi, j'ai encore cette chose que je dois laisser tomber. Changeons notre perspective. Et ça va nous aider à avancer, pour qu'on puisse saisir pleinement tout ce qu'il a pour nous. En Luc 15, Jésus nous raconte une parabole. Et souvent, donc si vous avez grandi comme moi au travers de l'école du dimanche et en entendant toutes les histoires en tant qu'enfant, la première perspective qu'on entend d'une histoire, c'est celle qu'on garde. Donc on entend une histoire, c'est la première image. Et parfois, c'est bon de les relire ensuite en tant qu'adulte et de voir qu'il y a plusieurs perspectives dans toute histoire. En Luc 15, c'est la parabole du fils prodigue. Donc je pense que pour la plupart, on en a déjà entendu parler. Mais dans cette parabole, l'histoire commence comme ceci. Souvent, on oublie cette première petite phrase. Il dit encore, un homme avait deux fils. Et dans l'histoire, on voit les deux fils, mais on met toujours l'accent sur le premier. Donc, le premier, il a décidé, je veux tout et je le veux maintenant. Donc, il est allé voir son père, il a dit, je veux tout, je veux maintenant. Son père lui a donné, il a dit, bon, bah, va faire ta vie. Et il est allé faire sa vie, il a tout dépensé. Il se retrouve dans la disette, dans la pauvreté, et dit, bon, ben, finalement, mon père, je sais qu'il est bon, je sais qu'il est juste, je peux au moins retourner le servir et pas mourir de faim. Mais regardons la réaction du deuxième fils. En verset 25, il dit, or le fils aîné était dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit, le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras ?»« Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Notez bien que ce fils aîné était héritier. Tout ce qui restait, parce qu'il a donné la moitié de ce qui lui appartenait au deuxième fils, n'est-ce pas, ce fils prodigue. Mais tout ce qui restait lui appartenait. Mais il s'est focalisé sur « il y a tant d'années que je te sers ». Il était focalisé sur la relation de service avec son père. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment une relation familiale? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Il travaillait dans l'affaire familiale, faisait fructifier les affaires de son père, donc par conséquent les siennes aussi. Mais il semblerait qu'il n'avait même pas une relation assez proche pour pouvoir lui demander une faveur. Et nous avons beaucoup de chrétiens qui sont rentrés dans la famille de Dieu, donc ils sont enfants de Dieu, mais pour certains, ils pensent que c'est comme dans l'Ancien Testament et qu'il faut faire pour recevoir l'approbation de Dieu. Donc ils ne réalisent pas que c'est maintenant une relation père-enfant. C'est une relation maître et serviteur. C'est tu es mon Seigneur et je dois tout faire pour vivre selon tes règles, sinon tu vas me... Ou deuxièmement, ils sont peut-être au courant qu'ils peuvent avoir une relation directe avec Dieu. Ils sont sauvés, mais ils ne sont pas au courant des réalités de la rédemption qui en découlent. Ils ne sont pas au courant. On leur a dit, tu viens, tu confesses de ta bouche, Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Et okay, maintenant, il faut que tu fasses ça. Il faut arrêter ceci, il ne faut pas faire ceci. Et donc, ils n'ont pas découvert la relation intime. Ils sont rentrés dans une optique, il faut que je fasse ceci. Donc, ils sont rentrés dans une optique de service. Et si c'est votre cas, je vous encourage vivement de venir le dimanche matin à 9h. Parce qu'il est fondement du croyant, où on parle des différentes choses, des réalités de la rédemption, qu'est-ce que c'est la parole de Dieu, que vous pouvez avoir une relation personnelle et intime avec le Seigneur. Et on prend ce temps pour ces choses-là, parce qu'on ne peut pas le prendre tous les dimanches matins. Il y a différentes choses à couvrir, mais on a vraiment à cœur que chaque chrétien ait les fondements de qui il est et quelle est la réalité de cette relation et qu'est-ce qui leur appartient dans cette relation. Quelles sont les choses dont il hérite? En Luc 10, nous voyons un autre type de relation. Donc là, c'est toujours dans le secteur de connaître Dieu en tant que père et pas juste en tant que maître. En Luc 10, verset 38, donc c'est Jésus à nouveau. Il dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne sera point ôtée. » Il y a une traduction anglaise qui dit, « Une seule chose est essentielle et Marie a choisi celle-là. » C'est la course principale et ça ne lui sera pas retiré. Nous vivons dans une société où le travail de nos mains est vraiment mis en valeur, n'est-ce pas? Philippe est suisse, mon mari, et son grand-père donc, a grandi en Suisse et dans sa vie, il a fait un grand déménagement entre le village de Nau et Lignières. Il y a peut-être 5 km entre les deux villages. Mais il a changé de canton, donc c'était vraiment quelque chose d'important. Et donc, il a grandi à la montagne, où c'est vraiment le travail des mains. C'est « Oui, tu travailles tes mains, c'est bien !» Et tu vois, on s'occupait des vaches et tout cela. C'est très, très différent. Et Philippe est plutôt intellectuel. Il a fait des études de lettres. Donc, c'est plutôt du travail cérébral, si vous voulez. Mais la valeur dans ce monde est vraiment mise sur ce que tu fais. Ah, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Beaucoup plus, donc surtout en Europe, n'est-ce pas? Beaucoup plus que sur les relations. Mais qui est-ce que tu connais? Quelle est ta famille? Quelle est la relation? Non, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et ici, nous voyons qu'il y a deux côtés, il y a deux aspects. Il faut faire quelque chose dans la vie, oui. Il faut que notre vie ait un but, qu'on puisse accomplir quelque chose. Mais les relations sont tout autant essentielles. Et si il dit qu'une chose est essentielle, la chose principale, comme il dit en français, Marie a choisi la bonne part. Elle a choisi d'investir. Et au lieu de tourner, de faire ceci, faire cela, pour le Seigneur, n'est-ce pas? Elle est en train de servir le Seigneur, Marthe. Mais de prendre le temps, de se consacrer et de vraiment le chercher. Chercher sa face, chercher à le connaître personnellement, intimement. Et je sais que personnellement, je suis beaucoup plus comme Marthe que comme Marie. Je suis beaucoup plus à courir à droite, à gauche, à faire ceci, faire cela. Et pour le Seigneur, je suis à plein de temps, donc je peux me consacrer pleinement. Et les gens disent « Ah mais c'est super, tu as plein de temps dans le ministère. » Donc ça veut dire que tu peux passer des heures à lire la parole, des heures à louer le Seigneur. Et moi je leur dis « Ouais, si tu vois mon emploi du temps, tu vois qu'en général c'est plutôt la petite abeille qui fait plein de choses. » Mais pourquoi faire tant de choses si on ne le connaît pas personnellement? La relation intime est premièrement essentielle pour qu'on sache pourquoi on fait les choses. Donc justement, dans ma relation avec mon père terrestre, donc mon papa, on a passé tout ce temps à se connaître, à développer notre relation, notre amitié. Donc maintenant, on peut travailler ensemble et on peut être très direct. Et des fois, je ne comprends pas forcément pourquoi il me demande de faire ça ou ça, mais parce que je connais son cœur, parce que je connais sa nature et qu'il a des bonnes choses prévues pour moi, il veut que du bien pour moi, je comprends pourquoi il va me dire... Oula. Je comprends pourquoi il va me dire de faire ceci plutôt que cela. Mais c'est la même chose avec Dieu. Les gens disent, mais Dieu, il va m'envoyer dans tel pays, il va me dire d'arrêter ceci ou de ne pas faire cela. Mais si on le connaît vraiment personnellement, on saura pourquoi il nous demande d'arrêter ceci ou d'arrêter cela. On ne mettra pas en question son raisonnement derrière, parce qu'on connaît son cœur. Donc de chercher sa face pour qui il est réellement. Et donc, le plus que vous développerez cette connaissance, cette relation intime avec lui, le plus il pourra vous demander des choses qui sortent de l'ordinaire, qui dépassent votre raisonnement. Et il vous expliquera au fur et à mesure. Mais parfois, il vous demande des actes d'obéissance qui semblent un peu hors norme. Ou du moins hors notre norme personnelle. Deuxièmement, les choses que Jésus est venu restaurer. Donc premièrement, notre vision de Dieu en tant que Père. Deuxièmement, il est venu pour restaurer notre identité. Comme on a vu au début, chacun cherche à établir son identité, que ce soit dans sa culture, dans sa musique, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de parler. Chacun a son identité et essaie de s'affirmer personnellement, n'est-ce pas? Et puis on en a d'autres que tous les 6 mois, leur identité change complètement. Vous avez déjà vu des gens comme ça? Bon, je pense qu'on y passe tous un petit peu au travers de l'adolescence, n'est-ce pas? On a nos phases comme ceci, comme cela. Moi, j'ai eu ma phase garçon manqué pendant très très longtemps. Enfin, j'ai eu ma phase petite fille. Ma mère aime beaucoup m'habiller en robe. Donc, j'ai eu ma phase petite fille princesse où j'étais tout le temps habillée en robe et tout ça. Puis, j'ai eu ma phase, je portais plus du tout de robe. C'était garçon manqué, après un peu beaucoup beaucoup de noir. Après, j'ai eu ma phase plutôt hip-hop et tout ça, et baggies et machin. Il y a la phase un peu skater parce que mes frères et mes cousins faisaient du skate. Enfin, il y a plein de. On se cherche, n'est-ce pas? Je ne suis pas la seule à repasser par plein de phases différentes. D'accord, ok. Là, je révèle une partie que ceux qui me connaissent depuis peu ne savent pas trop. Après, le jour où j'étais fiancée, là, j'ai recommencé à porter des robes. Parce que là, tu vois, c'est le côté des fiançailles. Et donc, mais au fur et à mesure, on cherche dans différentes choses de s'identifier, n'est-ce pas? Et donc, si ce monde-là s'écroule autour de nous, on a l'impression qu'on perd notre identité. Mais en Christ, c'est là où nous trouvons notre vraie identité. Pas celle que le monde va nous coller dessus ou nous labelliser. Mais Christ nous donne l'identité que lui a pour nous. Et tant qu'on n'a pas reçu cette identité de sa part, on ne pourra pas pleinement accomplir ce qu'il nous a demandé de faire. Donc c'est pour ça qu'on a des gens qui tournent en rond. Ils disent « mais je ne sais pas ce que j'ai appelé à faire », mais parce qu'ils se cherchent encore. Ils ne se sont pas découverts. Donc ils n'arrivent pas encore à accomplir ce que Dieu leur a demandé de faire. Et nous voyons ceci avec Gédéon. En Juges 6, la vision que Gédéon avait de lui-même et que Dieu avait de Gédéon n'était pas du tout la même, n'est-ce pas? Pour vous remettre dans le contexte, le peuple d'Israël donc, est entré dans la terre promise, n'est-ce pas? Donc ils sont sortis du désert, ils sont entrés dans la terre promise, mais ils sont oppressés. Ils sont oppressés par le peuple madianite qui vient leur voler les récoltes, qui vient les terroriser. Et donc c'est devenu un peuple qui est à la base conquérant, mais c'est devenu un peuple craintif. Donc l'Éternel se présente à Gédéon, en Juges 6, et verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héron. » Gédéon lui dit « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Entre autres, tout le peuple conquérant, il fallait qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour faire quelque chose, n'est-ce pas? Dieu a fait des choses, mais il attend notre part à nous aussi. Ensuite, l'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Mais pourquoi moi je suis le plus petit? Ma famille est la plus petite. Je n'ai rien. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Donc, vous pouvez lire la suite de l'histoire. Mais par la suite, donc, il va et il le fait parce que son identité est restaurée. Maintenant, il se voit en tant que vaillant héros. Et donc ensuite, au début, ils ont 32 000 hommes qui se rassemblent pour battre ce peuple qui les oppresse. Et le Seigneur dit non, c'est trop. Donc il passe à 10 000. Déjà avec 32 000, tu dis bon, bah, on peut faire quelque chose. Il passe à 10 000. Et le Seigneur dit non, c'est trop. Et ils sont 300 au final. 300 plus 1. Gédéon. Mais Gédéon avait reçu cette identité de Christ, de Dieu. Donc il pouvait faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Parce que cette identité avait été restaurée. Donc notre nouvelle identité, nous l'avons reçue à notre nouvelle naissance. Et c'est à nous maintenant d'avoir cette certitude de qui nous sommes. En Romains 8, 16 à 17, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est notre nouvelle identité. Et verset 17, il dit « Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. C'est cela notre nouvelle identité. Ce n'est pas celle qu'on vous a marquée avec lors de votre éducation au niveau des écoles, lors de votre famille ou des différentes interactions que vous avez eues tout au long de votre vie. C'est l'identité, celle-ci. C'est votre nouvelle identité. Et avec cette identité vient aussi une position. Il dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu. Donc la troisième chose que Jésus est venu restaurer, c'est notre position. Et celle-ci, si on arrive à saisir réellement quelle est notre position maintenant en Christ, alors on aura beaucoup moins de difficultés à rentrer dans cette vie abondante. Si on ne la connaît pas, on va toujours douter si c'est vraiment pour nous ou pas. Et on a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui doutent si les promesses de Dieu sont vraiment pour eux. Notre position, en 2 Corinthiens 5, 21, il part de ce que Jésus est venu accomplir. Donc 2 Corinthiens 5, 21 dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc, nous sommes devenus en lui justice de Dieu. Cela s'est passé au moment de la nouvelle naissance. En fait, ça s'est passé au moment où Christ est mort à la croix. Ça s'est devenu une réalité dans notre vie lors de notre nouvelle naissance, lorsque nous avons accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Mais maintenant, nous devons le réaliser. Nous devons le saisir et le comprendre pour que nous ne soyons pas une proie facile pour le diable. Matthieu 6, 33, qui est un verset qui fait partie de ce thème pour l'année et que l'on cite beaucoup. Mais on cite souvent la première partie et la dernière partie. Qui dit « Cherchez premièrement le royaume ». Donc on accentue beaucoup, on a beaucoup de prédications sur le royaume. Mais il dit « Et la justice de Dieu ». Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cette position qu'on a reçue en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier ou co-héritier avec Christ, c'est que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Parce que la justice nous indique qui nous sommes en relation avec lui. Ça indique la relation, cette relation père-enfant qu'on a développée au début. La justice nous donne la capacité de nous tenir devant Dieu, comme si nous n'avions jamais péché, sans sentiment de culpabilité ou d'infériorité. Et beaucoup de personnes ont un sentiment de culpabilité quand ils viennent voir Dieu, n'est-ce pas ? Ils viennent et ils n'osent pas forcément regarder, ils n'osent pas forcément lever les yeux vers lui. Sans sentiment d'infériorité. Notre identité a été affermie, a été établie. Alors nous pouvons venir voir Dieu depuis notre position, là où il nous a assis. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes, à la droite du Père, en Christ. On ne s'élève pas au-dessus de Christ. Parce que tout est possible, et cela a été fait que par lui et grâce à lui, n'est-ce pas ? Mais c'est en lui que nous avons cela. Donc cette justice restaure la communion que nous avons avec le Père Céleste. Cette communion sans intermédiaire, sans obstacle, telle qu'il y avait dans le Jardin d'Éden. Cette même communion, il a voulu depuis le début. Donc en envoyant Jésus, c'est aussi ce qu'il est venu restaurer. Cette justice restaure la paix. C'est la seule manière d'avoir la paix dans ce monde, d'avoir la paix réelle avec Dieu. Et lorsqu'on sait qu'on est la justice de Dieu, on sait ce qu'il a accompli pour nous, alors nous pouvons avoir cette intimité, nous pouvons avoir cette paix avec lui. Et savoir, ok, peu importe les circonstances, peu importe ce qui semblerait se passer, je sais qu'il règne, je sais qu'il a déjà accompli, et grâce à lui, je peux m'avancer vers lui. Je peux être en paix avec Dieu. Donc on ne craindra plus les factures, on ne craindra plus les circonstances. Nous savons que nous sommes en paix avec Dieu. Et s'il est notre Père Céleste, comme il a dit, il prend soin de nous. Amen. Il continue de prendre soin de nous. La justice restaure la liberté. Le fait de savoir que nous sommes réellement libres en Christ et que toutes ces anciennes choses n'ont plus leur place dans notre vie. Amen. La justice, décrite dans Éphésiens 6, fait partie de l'armure du croyant. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu cela en Éphésiens 6, il parle du casque du salut, il parle du bouclier de la foi, de l'épée de l'esprit, des semelles qui annoncent l'évangile, la ceinture de la vérité, mais il y a une grande partie principale de là, qui est la cuirasse de la justice. Donc si nous ne sommes pas conscients de cette justice, alors nous avons la plus grande partie de notre corps avec des organes vitaux qui sont exposés à l'ennemi. Notre cœur en particulier. Notre identité, elle n'est pas là, non. Notre identité, elle est dans notre cœur, n'est-ce pas ? Alors, ça veut dire que la plus grande partie de notre corps est exposée aux traits enflammés de l'ennemi. On peut essayer de se défendre avec l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, et le bouclier de la foi. Mais des fois, les bras sont un peu fatigués, n'est-ce pas ? Des fois, la parole de Dieu, si ça fait 2-3 jours que vous ne l'avez pas lue, et des fois, vous sentez des attaques de plus en plus, vous dites, mais ça vient d'où ? Mais si votre justice n'est pas clairement établie, votre identité n'est pas clairement établie, alors vous êtes une proie facile. En Romains 5, 18 à 19, dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est entièrement grâce à l'action de Jésus. Donc lorsqu'on vient chercher sa face, on n'a pas besoin de dire « j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Et Seigneur, je te remercie pour ce que toi tu as fait. Et je te remercie que grâce à toi, je peux entrer avec hardiesse devant ton trône. Si nous savons, nous ressentons qu'il y a un froid, parce que Saint-Esprit, des fois, vous dire « là, il faut que tu règles quelque chose, tu as fait ceci ou tu as fait cela ». Ok, la Bible dit en 1 Jean 1,9 qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité si nous confessons nos péchés. Et nous pouvons le faire là où nous sommes, confesser nos péchés et simplement retourner dans cette relation de paix avec le Seigneur. En Romains 5,1, il dit « étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ ». Une relation harmonieuse avec Dieu, en paix. Lorsqu'elle est harmonieuse avec quelqu'un, tu peux bénéficier de tous les bienfaits, n'est-ce pas? Si tu as un petit froid avec quelqu'un, ce n'est pas si facile d'aller demander une faveur. Lorsque j'étais enfant, si j'avais fait quelque chose qui ne faisait pas plaisir, je n'étais pas forcément la première à aller me présenter et dire « c'est moi qui ai fait l'erreur !» En général, la première réaction, c'est d'aller se cacher. Mais au fur et à mesure que tu grandis, tu sais que la tension qui crée autour d'une erreur ou d'une petite chose, ça frustre plus qu'autre chose. Et il n'y a plus l'harmonie qui règne. Donc tu vas et tu demandes pardon. Tu apprends que c'est plus facile des fois d'aller demander pardon rapidement plutôt que d'attendre longtemps et que ça devienne une montagne. Mais c'est la même chose avec Dieu. Donc la question c'est qui suis-je en Christ? Notre identité est établie en lui. Et la Bible est remplie de qui vous êtes en lui. Surtout depuis le Nouveau Testament. Parce que c'est depuis l'action de Jésus. Mais il y a certains passages aussi en psaume. Et premièrement, celui qu'on a beaucoup vu l'an dernier, qui dit que vous êtes la prunelle de ses yeux. Vous êtes sa prunelle. Donc il veut avoir une bonne relation avec vous. Vous êtes fils de Dieu. Vous êtes co-héritier avec Christ. Vous avez la vie en abondance. Vous êtes libre de la condamnation. Vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes affermi jusqu'à la fin. Vous êtes en Christ qui est devenu pour vous sagesse de Dieu, justice, sanctification et rédemption. Vous avez l'Esprit de Christ. Vous êtes réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ. Vous êtes ambassadeur de Christ. Vous avez la vie éternelle. Vous êtes la justice de Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous avez été rendu libre. Vous êtes saint. Vous êtes une nouvelle créature. Vous avez été crucifié avec Christ. Donc votre ancienne nature n'est plus. Votre ancienne nature, peut-être celle que les gens essaient de vous rappeler. Ah mais en fait, tu es comme ceci, tu es fait comme cela. Non, j'ai été crucifié avec Christ. Donc maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc toutes ces anciennes choses de ma nature qui peut-être n'étaient pas des meilleures, elles n'existent plus. Elles ne sont plus qui je suis. Je suis racheté de la malédiction de la loi. Vous êtes racheté de la malédiction de la loi. Donc maintenant que nous savons qui nous sommes, maintenant que nous savons que Dieu est notre Père céleste, oui, il est aux cieux, mais il règne aussi dans nos cœurs. Donc la relation peut être aussi intime que vous désirez qu'elle soit. Mon papa terrestre, ça va faire 6 semaines que je ne l'ai pas vu. Et honnêtement, il me manque beaucoup. Je ne suis pas délaissée, j'ai la famille qui est là, j'ai mon mari qui est là, mais c'est différent, papa. Mais mon Père céleste est toujours là. Il est toujours là avec vous. Donc à vous de décider l'intimité, la proximité que vous voulez avec lui. À vous de chercher sa face. Maintenant, nous connaissons notre identité, ou si on ne la connaît pas encore, il va vous la révéler. Il va vous la montrer. Mais nous connaissons aussi notre position. Donc maintenant, à nous de garder cette conscience de justice, cette conscience de cette cuirasse qui doit rester ferme, qui doit rester imperméable aux attaques du diable. Parce que s'il arrive à vous attaquer dans votre identité, Et il essaye. Peu importe que vous ayez grandi dans une bonne famille ou une famille un peu plus difficile, à n'importe quel âge, il essaie d'attaquer votre identité. Mais rappelez-vous de cette cuirasse de l'armure du croyant. En Proverbes 21:21, il dit « Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. » Lorsque l'on poursuit la justice, alors nous pourrons marcher dans la vie abondante. C'est pour ça que c'est les premiers pas vers la vie abondante. Nous pourrons marcher dans la vie abondante que Jésus est venu pour nous donner. Elle est là, elle est à disposition. Mais à nous de marcher dedans, avec cette nouvelle identité. Mais qu'est-ce que c'est que la vie abondante? Ça, je suis sûre que Pasteur John va en parler, ou les différents orateurs qui ont venu au travers de l'année vont en parler beaucoup. Mais principalement, Jésus nous le dit en Jean 17. En Jean 17, verset 3, il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » La découverte de notre justice en lui, ce premier pas vers la vie abondante, va transformer notre vie de prière. Ça va transformer comment on s'approche de Dieu. Notre autorité en Christ va être affermie. On n'aura plus peur de l'ennemi parce qu'on saura quelle est notre identité, notre position. Et les sentiments de culpabilité n'auront plus matière à quoi s'enraciner dans notre vie. Et ça va libérer vos pensées, mes amis. Ça va libérer vos pensées. Parce qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Romains 8, 1. Donc soyons des gens affermis dans notre position, dans notre identité, afin que nous puissions être une source d'encouragement, qu'on n'ait pas peur de voir notre entourage réussir. N'est-ce pas? Lorsque notre identité, notre position est affermie, alors on n'aura pas peur d'encourager les autres. On n'aura pas peur de les voir réussir et fructifier. Et on n'aura pas peur de transmettre. On ne sera pas comme la personne qui a reçu un talent qui est allée l'enterrer. On en parlait ce matin avec l'équipe pastorale. Mais on sera comme ceux qui ont fait fructifier. Parce que lorsque nous investissons nos talents, on fait décupler le potentiel que Dieu a mis en nous en le partageant aux autres. Et on n'a pas besoin d'être intimidé. Ensemble, nous pouvons bien plus que tout seul. Et ensemble, prenons ce premier pas. Je vous invite à vous lever ce matin. Et on va avoir un temps de Sainte-Cène, de communion. Et c'est un bon temps pour se rappeler ce que Jésus a fait. Se rappeler de ce qu'il a fait à la croix, mais ce qui nous appartient maintenant que nous sommes en lui. Alors qu'on prend cette coupe, qu'on prend ce pain, de savoir, maintenant je suis en lui. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais on peut saisir cette réalité de ce qui nous appartient. Et j'aimerais prier pour vous, et on va passer à la Sainte-Cène. Et après la Sainte-Cène, peut-être qu'on aura un temps de prière, pour ceux qui veulent recevoir la prière, qui ont besoin d'être encouragés, qu'on puisse se tenir avec vous pour que vous soyez affermis dans votre identité. Alléluia. Merci Père Céleste. Seigneur, je te remercie, parce que tu as fait tout le nécessaire, tu as tout accompli, pour qu'on puisse avoir ce libre accès devant le Père, pour qu'on puisse avoir cette relation intime avec notre Père Céleste. Merci parce que tu es venu nous démontrer qu'est-ce que c'est que notre identité, cette position depuis laquelle on peut opérer. Merci Père, parce qu'en toi, nous avons cette liberté. En toi, nous pouvons vivre la vie abondante. Nous pouvons te connaître, toi le seul vrai Dieu. Et Seigneur, je te remercie pour mes frères et sœurs qui soient affermis dans leur position ce matin. Qu'ils saisissent cette conscience de la justice, qu'ils saisissent cette cuirasse et qu'ils la portent fièrement, sachant que tu as déjà tout payé pour qu'ils puissent la porter. Merci Père Céleste, pour ce que tu es en train de faire dans le cœur et dans la vie de mes frères et sœurs. Dans le nom de Jésus. Amen.